Nous allons commencer une série de messages les dimanches soirs sur l'évangile de Matthieu. Maintenant que nous avons terminé l'épître aux Hébreux, qui nous a invités à avoir les yeux fixés sur Christ, bon, comment mieux faire que de nous plonger une fois de plus dans les évangiles? Et l'évangile de Matthieu sera le thème des prochaines semaines et voire mois. Nous ne savons pas exactement combien de temps ça va prendre, mais ce sera une joie de le faire. C'est toujours un plaisir et c'est toujours une bonne chose pour nous de revenir à Christ, à son histoire, à ses enseignements. Et nous allons commencer à faire cela ce soir. Mais avant, quand même, je vais profiter de faire quelques pensées, idées d'introduction pour l'évangile de Matthieu en général. Avec cette idée de vous lancer le défi de relire l'évangile de Matthieu ces prochaines semaines, au début maintenant de notre étude de Matthieu. Pas de faire une étude en détail de chaque verset, de chaque passage, mais de vous asseoir, de prendre quelques heures d'une traite ou en plusieurs fois pour lire l'évangile. Ou si vous n'aimez pas lire d'une manière continue, pourquoi pas de l'écouter. On a maintenant la possibilité d'écouter des enregistrements gratuitement de l'évangile de Matthieu et des autres aussi. Mais quand on pense à l'évangile de Matthieu, peut-être une des questions de base, c'est qui l'a écrit, d'où vient cet évangile? Et il faudrait savoir que le document de l'évangile de Matthieu est formellement anonyme. C'est-à-dire, dans le texte lui-même, vous ne trouverez jamais une phrase qui dit « C'est moi, Matthieu, qui ai écrit cet évangile ». Mais le témoignage, on va dire extra-biblique, en dehors de la Bible, est unanime à attribuer l'évangile à Matthieu, ou son autre nom, c'est Lévi, le disciple de Jésus, un des 12 apôtres, qui était un péager, un collecteur d'impôts que Jésus a appelé. On voit son histoire, l'histoire de son appel dans Matthieu chapitre 9, dans Marc chapitre 2 et Luc chapitre 5. Et comme j'ai dit, dans l'évangile de Matthieu, il est appelé Matthieu, et dans Marc et Luc, il est appelé Lévi. Il semblerait qu'il était comme plusieurs de ses autres disciples qui avaient deux prénoms. Hein, et donc lui, c'était Matthieu Lévi ou Lévi Matthieu. C'est intéressant, juste en le disant un peu sur ce qu'on sait sur le texte de l'évangile, j'ai découvert qu'un des fragments les plus anciens, hein, qui est très 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 ancien de l'évangile de Matthieu, tout ce qu'ils ont trouvé dans ce fragment-ci, il y a d'autres qui ont l'évangile en entier bien sûr, mais ils ont trouvé un fragment qui dit simplement l'évangile selon Matthieu, et c'est l'un des plus anciens fragments qui a été retrouvé de l'évangile. Et donc aussi longtemps qu'on lit cet évangile, à notre connaissance, toujours connecté à Matthieu. Et ça, c'est important pour nous d'avoir cette connexion, parce qu'il semble bien donc que c'est l'évangile qui a été écrit par un des témoins oculaires de Jésus. C'est pas des histoires récoltées des décennies et des décennies après, mais c'est bien une des personnes qui a écouté Jésus, qui a appris directement de lui et qui donne maintenant ce témoignage à ce sujet. Lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu, deux idées vraiment importantes qui reviennent sans cesse et qui nous aident à mieux comprendre l'évangile. Premièrement, c'est que Matthieu, même plus que tous les autres évangélistes, il fait le pont, entre guillemets, entre l'Ancien Testament et l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Certains ont compté plus de 160 références ou de citations directes à des passages de l'Ancien Testament dans l'évangile de Matthieu. Certains disent qu'il y en a plus que même 200 différents. Et d'ailleurs, vous savez, la première phrase dans l'évangile de Matthieu, si vous êtes à Matthieu 1, vous pouvez déjà le lire, mentionne déjà Abraham et David. Alors, on est clairement dans l'histoire de l'Ancien Testament ici. Et Matthieu insiste beaucoup sur comment Jésus est l'enseignant par excellence de la loi de Moïse. Vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de docteurs, beaucoup de rabbins, beaucoup d'experts de l'Ancien Testament qui enseignaient différentes choses, avaient différentes perspectives. Mais Matthieu va nous montrer qu'il n'y a personne qui comprend, qui explique et qui applique la loi de Moïse et l'Ancien Testament mieux que Jésus. Il est l'enseignant, celui qui éclaire l'Ancien Testament mieux que tous. Mais en plus de cela, il est celui qui accomplit parfaitement l'Ancien Testament. Surtout les promesses de Dieu qu'il a faite pour son peuple Israël. Et aussi, Jésus incarne le caractère de Dieu que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et donc, Matthieu fait vraiment ce pont, Ancien Testament, Nouveau Testament. Et on va voir quelques idées ce soir sur comment il fait cela. Et Cette insistance donc sur l'Ancien Testament est plus marquée que dans les autres évangiles, même si bien sûr c'est important dans tous les récits. Et ça nous fait penser, en tout cas ça fait penser à beaucoup des experts, que Matthieu a écrit l'évangile avec des chrétiens d'origine juive dans la tête. C'est-à-dire, il s'adressait à un public qui connaissait déjà bien la Torah, qui connaissait les psaumes, qui connaissait les prophètes, et il voulait aider ces chrétiens à voir qu'il y avait une concordance, qu'il y avait une continuité entre ce qu'ils avaient déjà cru au sujet de Dieu et ce que Jésus est venu faire, et non pas un conflit ou une rupture entre les deux. Et donc, même si, bien sûr, vous allez voir dans Matthieu, il ne dit pas « je suis en train de m'adresser à des chrétiens d'origine juive ou à des juifs qui pensent devenir chrétiens ou autres », on sent quand même cette idée de « je m'adresse à des gens qui sont baignés dans l'Ancien Testament, baignés dans la parole de Dieu depuis peut-être leur enfance, et il les aide à faire ce lien avec Jésus. Même si c'est quand même un message pour tout le monde, hein. C'est pas du tout un message uniquement pour les juifs qui suivent Christ ou qui sont intéressés par lui. Mais c'est quand même une optique que nous allons garder. Et comme j'ai dit aussi, l'autre vision que nous avons, si un, c'est Matthieu nous montre le pont entre l'Ancien Testament, la deuxième chose, c'est Matthieu nous montre Jésus, l'enseignant. Et c'est vraiment un récit qui, bien sûr, nous raconte le ministère, la mort, la résurrection de Jésus, mais aussi qui nous montre Jésus et comment il enseigne aux chrétiens et à ses disciples comment vivre. Les biblistes ont compté dans l'évangile de Matthieu cinq séries de discours différents. Et on peut faire un découpage de Matthieu par cinq discours. Le plus connu, et ceci presque tout le monde le connaît, qu'il soit chrétien pratiquant ou non, c'est le sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Bon, en fait, le sermon sur la montagne, c'est le premier de cinq discours différents dans l'évangile que nous allons voir par la suite. Il y a un discours sur la destruction de Jérusalem et du temple et de l'attente de la révélation du royaume de Dieu. Il y a une série de discours sur les paraboles du royaume. Il y a une série de discours aussi sur l'évangélisation, etc. Mais c'est vraiment Jésus, notre maître. Jésus, notre Seigneur, mais aussi notre enseignant à qui nous voulons nous soumettre. Donc, un de nos buts cette série de messages sera simplement de lire avec cette perspective de « je veux que Jésus soit mon enseignant, je veux qu'il soit mon maître et je veux me mettre à son écoute aussi. » Et donc, voilà quelques fils conducteurs que nous allons avoir. Et simplement, on va lire les versets 1 à 17 de l'Évangile selon Matthieu. Et vous allez voir, c'est fascinant. Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pérets et Zéra. Pérets engendra Hertsom. Hertsom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salma. Salma engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Jotam, Jotam engendra Ahaz, Ahaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Yéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Yéconia engendra Shéatliel, Shéatliel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Hatsor, Hatsor engendra Sadoc, Sadoc engendra Achim, Achim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Ouf. J'aimerais juste poser une question, peut-être un peu rhétorique, mais si vous alliez écrire l'histoire la plus importante de toute l'humanité, okay, il n'y a aucun récit plus important que quelqu'un va entendre de toute sa vie, quel serait votre, je crois qu'on appelle ça l'incipit, n'est-ce pas, le début de l'histoire. Comment est-ce que vous commenceriez votre histoire pour avoir une accroche? Bon, il y a différentes manières de faire, mais j'imagine que vous ne diriez pas, bon, je vais faire une généalogie, n'est-ce pas? Que vous diriez pas, ah, je veux que tout le monde entende cette histoire, donc je vais raconter une généalogie pour que tout le monde croche dès le début. Et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un genre littéraire avec lequel on a de la difficulté. Et je dois dire sincèrement, quand je dis aux gens, bon, lis le Nouveau Testament, parfois j'oublie, ah ouais, ça commence avec une généalogie, ça va confirmer tous les stéréotypes qui pensent au sujet de la Bible. C'est juste des listes de noms, des choses que je ne comprends pas du tout. Et les généalogies ne sont pas vraiment notre truc, n'est-ce pas? Je viens de finir d'enseigner une série de classes, c'était pour l'église de Genève, mais il y avait d'autres participants aussi, sur comment lire la Bible. Et on a fait un chapitre sur les genres littéraires. Vous savez, il y a différentes sortes, il y a des psaumes, il y a des paraboles, il y a des récits, des prophéties, des lois, etc. Et la question, et ça c'était un partage pour tout le monde, c'était quel genre littéraire vous donne le plus de difficultés? Et sans donner plus d'instructions que ça, voici quelques réponses que j'ai eues. Une personne a écrit, le genre littéraire qui me donne le plus de difficultés est la généalogie. Lire une liste de noms est jusqu'à ce jour quelque chose de fastidieux pour moi. Hein, c'est une chrétienne très engagée dans la foi. Plus tard, elle dit, je n'arrive pas à retenir les noms importants ni à dégager ce que cela peut m'apporter. Quelqu'un d'autre a dit, j'ai beaucoup de mal avec les généalogies, surtout celles dans le livre de la Genèse. Elles sont très longues et on s'y perd vite, surtout quand le même nom apparaît plusieurs fois dans la même généalogie. Et une autre question dans la classe, c'était, est-ce que vous avez déjà essayé de lire la Bible en entier et comment ça s'est passé? Et voici ce que, de nouveau, sans que je leur donne d'indice, mais la personne a répondu, Genèse, Exode, quelle facilité. Lévitique, Nombre, Deutéronome étaient une autre paire de manches. J'ai été bloqué par les généalogies et par les dénombrements. Mon enthousiasme avait disparu si bien que je suis passé directement au Nouveau Testament. Et puis là, elle est tombée sur une généalogie, hein, j'aimerais mentionner aussi. Bon, on va parler de pourquoi Matthieu commence le message le plus important de l'histoire avec une généalogie, ce qui nous semble tout à fait bizarre comme manière de faire. Mais il y a quelque chose de très important, même plusieurs choses très importantes qui se passent ici. Et mon but, c'est pas que vous commenciez à savourer les généalogies, d'accord? Mais simplement qu'on comprenne pourquoi c'est important de voir Jésus dans cette série de naissances et de générations qui se suivent. Juste quelques remarques très rapidement sur cette généalogie au niveau des questions qu'on peut se poser et de la structure. Vous avez vu au verset 17, il termine en disant que nous avons 3 fois 14 générations. Et ici, c'est vraiment l'idée d'une certaine symétrie ou d'un ordre dans la venue de Jésus, un plan qui est en train de progresser. Mais il ne fait aucun doute, et Matthieu n'essaie pas de le cacher ici, que Matthieu saute des générations pour avoir 14, 14, 14. D'ailleurs, les généalogies sur lesquelles il se base dans la Genèse, il y a des noms qui sont en plus. Et il ne faut pas paniquer en voyant ça, c'était une pratique tout à fait courante dans les généalogies de sauter parfois une ou deux générations. L'idée d'engendrer ou d'être père de quelqu'un ne voulait pas forcément dire c'était mon enfant direct. Bon, moi je suis le père d'Éric. Éric est le fils de Justin, ça marche très facilement. Mais on pouvait aussi dire qu'on était le fils de quelqu'un qui était beaucoup de générations plus tôt. Par exemple, on pouvait dire je suis enfant ou fils d'Abraham, si on était israélite. On appelait Jésus le fils de David. Okay? L'idée, c'est pas que David était son papa, mais que David était son ancêtre. Et donc, une généalogie, quand on dit engendrer, ou ici, dans ce passage, c'est l'idée était l'ancêtre. Mais il y a aussi donc des générations qui sont en train de partir. Mais une des raisons, c'est pour avoir cette symétrie facile à retenir de 14, 14, 14. Et bon, il y a eu des suppositions pour dire, bon, pourquoi 14, 14, 14? Je ne sais pas. Je peux vous donner quelques idées qui sont données. On sait que d'autres généalogies qui étaient écrites à l'époque essayaient aussi d'avoir ce chiffre de 14 qui revenait souvent, qui est deux fois 7. D'autres ont remarqué que, vous savez, à l'époque, on n'avait pas des chiffres, on n'avait pas les chiffres arabes. Les chiffres, c'était aussi des lettres. Donc, quand on dit les chiffres et les lettres, le Scrabble, c'était la même chose, hein, à l'époque. Mais David, son numéro, c'est 14, d'accord, si on prend les lettres. Et donc certains ont dit, bon, qu'est-ce qu'on a dans l'histoire de Jésus, la généalogie? On a David, David, David. Okay. On a un triple David. Jésus, c'est le David divin, le roi par excellence. J'en sais rien, mais c'est une possibilité aussi. Pourquoi est-ce que... Parce que Matthieu veut qu'on se rende compte, hein. Il veut attirer notre attention sur ce fait. Mais ceci est pour nous rappeler quand même qu'il y a un travail de style qui est ici, qui est plus important que simplement de nous donner chaque nom qui était dans la généalogie. Il y en aurait eu beaucoup, beaucoup plus, sinon. Et on est un peu heureux qu'il n'y en avait pas beaucoup plus, d'ailleurs. L'autre chose aussi, c'est on verra des différences avec la généalogie dans l'évangile de Luc. Et deux explications ont été données, que je trouve assez cohérentes. Une, c'est que Luc se concentre sur la généalogie de Marie, tandis que Matthieu sur celle de Joseph, qui est le père donc adoptif de Jésus. L'autre possibilité aussi, c'est comme on a dit, on saute des générations. Luc en a sauté certains, Matthieu en saute d'autres. Et puis il y a ces questions aussi de mariage. Un lévirate. Vous savez, pour les Israélites, si un mari décédait avant d'avoir des enfants, le frère devait épouser la femme et les enfants étaient considérés comme les descendants du premier frère, mais ils étaient aussi en fait le descendant du deuxième frère. Donc là, ça peut facilement expliquer les différences qui sont là, même si c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà juste quelques pensées. C'est des questions qu'on va rencontrer assez souvent quand on parle des généalogies avec les gens, quand on les lit pour soi-même. Mais c'est pas ça la clé du message de ces généalogies. Quelques choses qu'on apprend très rapidement, trois choses importantes qu'on apprend. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Matthieu a choisi de commencer l'évangile de cette manière, inspiré bien sûr par le Saint-Esprit. La première chose, c'est que ces généalogies nous situent dans le monde des faits réels. Lorsqu'on lit l'Évangile et on commence avec cette série de noms, nous ne sommes pas en train de dire « il était une fois, ta-ta-ta, une histoire ». Ce n'est pas non plus une parabole ou une image spirituelle, mais c'est l'histoire de personnes réelles qui ont vécu sur cette terre. Nous voyons dans cette généalogie la preuve que Jésus a les caractéristiques, a le pédigré, entre guillemets, nécessaire pour être le Messie. Parce qu'il est premièrement juif, n'est-ce pas? Parce qu'il est descendant d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Et deuxièmement, il est fils de David. Et pour être un prétendant au trône, il fallait être descendant de David et descendant d'Abraham. Bien sûr, bon, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc Matthieu, pour un public juif, est en train de montrer d'une manière très claire que Jésus a le droit d'être appelé le Messie parce qu'il est le descendant de celui qui a reçu les promesses messianiques. Il est le descendant de David. Mais comme j'ai dit, c'est plus que ça. On est vraiment en train de regarder l'histoire de vraies personnes. Et l'auditeur critique pouvait aller consulter les généalogies et vérifier si Joseph était vraiment le père, reconnu comme le père de Jésus. Et puis, si le père de Joseph était vraiment, je ne vais pas répéter tous les noms, mais on pouvait remonter, c'était en quelque sorte un reçu au niveau de la famille de Jésus, pour montrer qu'il avait les réelles prétentions. Mais ça veut dire que c'est une histoire vraie. Ou que nous sommes au minimum, bon, je sais que vous êtes croyants, mais au minimum, on doit le lire comme si c'était une histoire vraie. Matthieu n'essaye pas de nous raconter une fable spirituelle ou une parabole morale. Il n'essaye pas de donner une explication allégorique ou métaphorique de l'homme Jésus, mais qui n'est pas basée sur les faits historique. Matthieu veut qu'on comprenne que nous parlons de l'histoire réelle. Et donc, quand on lit l'histoire de Jésus, nous avons affaire à des vraies personnes qui ont vécu dans un pays réel, à une époque réelle. Nous sommes en train de parler de ce qui prétend être la réalité. Et c'est un appel de foi pour nous de croire que c'est vraiment la réalité. Si Jésus a vraiment vécu, si sa mère, c'est vraiment Marie, s'il est vraiment les descendants par adoption de Joseph et de tous les autres, et si c'est vraiment la réalité, les événements réels, ça veut dire que ce n'est pas seulement vrai pour nous, mais c'est vrai pour tout le monde. D'accord? Parfois, on dit, bon, c'est ton opinion, ou moi, je crois que telle et telle chose. D'accord? Et il y a des choses, c'est vrai. Si je demande à Larry quelle est la meilleure équipe de hockey, celle qu'il dit, c'est son opinion, mais c'est pas forcément, je suis pas obligé d'être d'accord avec lui. Il n'y a pas une réalité plus grande. Mais pour la question de Jésus, on ne peut pas se cacher dans cette notion d'opinion. Parce que l'évangile prétend être plus que qu'est-ce que tu crois sur Dieu ou quelles sont tes convictions personnelles. C'est qu'est-ce qui s'est passé réellement. À tel point que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que si Christ n'est pas vraiment ressuscité, réellement ressuscité, que notre foi est vaine. Que nous avons une foi uniquement basée sur les faits historiques et réels de Jésus. Si c'est juste des règles morales, avec une belle histoire de Dieu qui devient homme tout autour, bon, c'est une foi vaine. Il faut chercher autre part. Mais si c'est la réalité, bon, c'est une source de grande joie pour nous. Et donc, Matthieu ne nous donne pas d'échappatoire ici. Nous n'aurons pas une histoire symbolique, une résurrection symbolique, mais c'est plutôt l'histoire qui s'est passée parmi nous et dans notre monde. Bon, la deuxième chose, très rapidement, la généalogie nous connecte, comme j'ai déjà dit, Matthieu va le faire souvent, mais nous connecte directement dans l'Ancien Testament. D'accord. C'est le raccord. Quand on va en France, il faut une prise spéciale qui d'un côté ressemble à la prise française et de l'autre côté à la prise suisse, si vous voulez pouvoir utiliser vos appareils là-bas. Bon, le début de Matthieu, c'est ça. Nous avons ici la prise de raccord dans l'Ancien Testament. Le verset 1 commence avec ce terme « généalogie de Jésus ». Et j'aime bien la traduction ici de Darby qui dit « livre de la généalogie de Jésus-Christ ». Donc ça, c'est vraiment littéralement ce qu'il dit. Le livre de la généalogie de Jésus-Christ. Et vous savez, ça, c'est les mêmes termes qui sont utilisés dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 5, verset 1, où nous lisons « voici le livre de la généalogie d'Adam ». Et vous vous souvenez, hein, ces étudiants que j'ai eus qui disaient « ouf, je lis la Genèse et puis d'autres livres, et on a ces généalogies les uns après les autres ». Mais un des critères de style, surtout au début de l'Ancien Testament, on commence l'histoire et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des généalogies, des livres de descendants qui sont là. Et nous avons ici le nouvel Adam, n'est-ce pas ? On avait le livre de généalogie d'Adam, dans Genèse chapitre 5, verset 1. Bon, maintenant nous avons le livre de généalogie de Jésus. Et si Adam, c'est le point de départ, Jésus, c'est la ligne d'arrivée, n'est-ce pas ? Lui qui est appelé plus tard le nouvel Adam, bon, c'est lui le point culminant de tout cela. Et donc déjà dans la forme, nous voyons que nous lisons la suite de l'histoire entamée dès la Genèse. Comme l'histoire de Dieu et de l'appel de son peuple commence avec des générations, de la même manière l'histoire de Jésus est celle de nouvelles générations. Et c'est important de comprendre, l'histoire de Jésus c'est quelque chose de complètement nouveau. Okay. Jamais Dieu n'a fait ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Il y a quelque chose d'incomparable à l'évangile et à la personne de Jésus. Mais l'évangile, c'est aussi quelque chose qui est complètement à sa place dans la Bible et avec l'Ancien Testament. L'évangile de Jésus ne remplace pas tout ce que Dieu a fait avant. Il ne l'élimine pas, mais il continue et il complète ce que Dieu avait entamé dans l'Ancien Testament. Et donc, dans la forme, déjà, ici, Matthieu nous donne un clin d'œil à la Genèse, à tous les autres, au livre des Nombres, aux descendances, aux alliances et toutes ces choses que Dieu a faites. Mais aussi juste dans les noms, n'est-ce pas ? Si l'Israélite, lecteur avide de l'Ancien Testament, va reconnaître tout plein de noms bien connus, hein, Abraham, Isaac, Jacob, Judas, Tamar, Rahab, Boaz, Ruth, Isaïe, etc., etc., etc. C'est les noms qu'on connaît tous. Et Jésus et l'Évangile ne répudient pas l'histoire de l'Ancien Testament. Ils confirment en disant « voici la conclusion, voici le point culminant ». Et ça me fait penser à la première prédication de l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 3, verset 13, où Pierre dit aux Israélites, aux Juifs qui sont présents, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Seigneur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qu'il avait jugé bon de relâcher. Et Matthieu fait la même chose que son frère, que son camarade Pierre, l'autre apôtre, avait fait. Il connecte Abraham, Isaac et Jacob avec Jésus. C'est le même Dieu, c'est le même Père, mais il a fait quelque chose de nouveau et d'extraordinaire en Jésus-Christ. Une des choses que nous pouvons faire pour nous-mêmes, si le fait que l'Évangile soit des faits historiques nous appelle à une conviction de foi dans les faits réels et aussi au partage, cette connexion avec l'Ancien Testament nous rappelle que nous ne pouvons pas nous passer de l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose qu'on jette à la poubelle et on dit on n'y touche plus, on ne le lit plus, ce n'est plus important pour nous. Nous ne pouvons pas non plus mépriser l'Ancien Testament. Mais cela fait partie de la parole de Dieu et du message de Dieu pour nous. Ah, au niveau concret, est-ce que ça veut dire que si quelqu'un à l'armée me dit, bon, c'est parle-moi un peu de ce que tu fais pour l'Église, et puis la foi, c'est comment? Je vais pas lui dire, voici un petit livret lévitique. Okay? Lis-le, ça va changer ta vie. Je vais pas faire ça, d'accord? C'est pas ça l'application, le message. Je préfère donner Jean ou Luc ou quelque chose comme ça, on se comprend. Mais nous devons lire l'Ancien Testament, à nous qui croyons en Jésus, pour pouvoir comprendre ce que Jésus est en train de faire, pour comprendre comment Dieu a agi à travers l'histoire et comment il a préparé la venue de Jésus. Et si on laisse l'Ancien Testament de côté, nous aurons une foi qui est appauvrie. Nous aurons une compréhension de Jésus qui est appauvrie. Et l'Église, à travers les siècles, a toujours tenu à l'Ancien Testament. Ils n'ont jamais accepté l'idée qu'on jette à la poubelle tout ce qui est venu avant, que Jésus est venu un peu comme un éclair dans le vide, mais plutôt c'est vraiment l'idée que Dieu continue à agir. Et ça, parfois, on retrouve, il y a une pression qui nous dit de ne pas faire cela. Mais nous tenons à l'Ancien Testament, car c'est elle qui prépare Jésus. Et c'est ça qui nous amène finalement à la dernière chose. Donc, cette généalogie nous place dans le monde réel, des faits réels. La généalogie nous fait la connexion, le pont avec l'Ancien Testament, mais finalement, elle nous situe dans le dessein de Dieu, dans la réalisation du plan de Dieu. Cette généalogie, c'est plus que de justifier la descendance de Jésus, pour montrer qu'il est vraiment un fils de David. C'est plus aussi que nous dire, oui, il faut aller lire l'Ancien Testament. Cette généalogie nous montre que Dieu est à l'œuvre depuis le début, depuis l'appel d'Abraham pour faire naître une personne, et c'est Jésus de Nazareth. Et que dès le début, quand Dieu a appelé Abraham, il préparait le sauveur du monde. Et c'est pas juste un livre, d'accord ? C'est un plan que Dieu est en train de mettre en œuvre dans la vie des hommes et des femmes, de foi, et parfois de moins de foi, qui sont venus avant. La généalogie, c'est pas juste une liste de noms. C'est un rappel que Dieu est à l'œuvre dans le monde pour amener Christ. Paul dit ceci dans Galates chapitre 4, les versets 4 à 5. Que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Mais il dit, j'aime bien cette expression, lorsque les temps furent accomplis. Et on commence avec Abraham. Et chaque génération, l'accomplissement est en train de s'approcher, jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus, qui est le Christ. Et c'est deux noms qui sont en tête, n'est-ce pas? Bon, trois noms. On a Jésus, Abraham, David. Bon, pourquoi ces trois noms? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Beaucoup de promesses, mais dans Genèse 12, versets 2 à 3, voici les promesses initiales que Dieu fait à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et cette dernière promesse que Dieu fait à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Bon, elle est accomplie en Jésus. Jésus, c'est la dernière promesse de Dieu à Abraham. Une bénédiction pour toutes les familles, toutes les nations du monde entier. Et quelle promesse est-ce que Dieu a fait à David? Bon, on peut lire, et ça c'est peut-être des passages même à mémoriser, mais 2 Samuel chapitre 7 verset 16, Dieu dit à David que ta maison, c'est-à-dire ta dynastie, et ton règne seront pour toujours assurés devant toi. Ton trône pour toujours affermi. Et comme la promesse à Abraham d'être une bénédiction pour les nations, qui n'a pas vraiment été accomplie dans l'Ancien Testament, cette promesse à David n'est pas accomplie non plus. Il n'y a pas de descendant de David sur le trône. Mais ces promesses, qui sont des promesses fondamentales dans le plan de Dieu, s'accomplissent en Jésus. Dieu a fait des promesses qui attendent toujours leur réalisation. Il a commencé à agir, mais ce n'est pas encore fini. Et c'est seulement en Jésus que nous voyons la réalisation du plan de Dieu. Et ce découpage en trois tranches, nous avons Abraham, David et la déportation Babylone, marque un peu ces grandes étapes dans l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu promet à Abraham, ta descendance bénira le monde. Il promet à David, ta descendance régnera pour toujours. Et à la déportation à Babylone, bon, il y a l'attente d'un renouveau, il y a l'attente de la venue d'un sauveur qui va fonder une nouvelle alliance. Et Jésus accomplit toutes les attentes de toutes ces trois grandes étapes dans l'histoire d'Israël. Bon, qu'est-ce que cela change pour nous une dernière fois? Nous lisons la Bible et surtout l'Ancien Testament, premièrement et fondamentalement pour discerner comment Dieu est en train d'accomplir son plan pour la venue du Messie. Ah, et ceci nous donne une lentille, des lunettes à travers lesquelles nous pouvons lire l'Ancien Testament. Que l'Ancien Testament, c'est une flèche qui est en train de pointer en direction de Jésus et de préparer sa venue. Matthieu lit donc l'Ancien Testament pour y discerner, pour voir Christ et la préparation de la venue de Christ. Paul fait la même chose. Il lit l'Ancien Testament et il voit Christ sur chaque page. Jacques, Jean, Luc, Marc, ils font tous cela. Et Jésus, lui aussi, lisait l'Ancien Testament et il voyait sa venue et sa vie et son sacrifice pour le peuple de Dieu. Et pour nous, c'est pas juste dire, bon, il faut commencer à lire l'Ancien Testament. Mais on commence à lire l'Ancien Testament pour voir comment Dieu prévoit la venue de Christ. De nouveau, si on revient à cette prédication de Pierre dans Actes chapitre 3, Pierre dit ceci: « Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. » Voilà l'Ancien Testament, l'annonce de la venue de Christ. Bon, le mot de la fin, il y a un plan, et tout ce que j'ai dit pour l'instant, c'est les promesses de Dieu pour Israël. Mais il y a quelque chose de plus grand qui est là, déjà dans la généalogie aussi. Parce que vous avez vu, hein, il y a cinq femmes qui sont mentionnées. Bon, Marie, c'est la dernière. Mais les quatre avant nous surprennent un peu. Dans les généalogies juives, on n'était pas obligé de mettre que des hommes. Parfois, on mettait le nom des femmes aussi. Mais ce n'était pas du tout quelque chose de typique. Et si moi, je devais écrire l'évangile, peut-être que j'aurais mentionné Sarah. Peut-être que j'aurais mentionné Rebecca dans l'histoire. Mais Matthieu fait quelque chose de très particulier, n'est-ce pas? Il ne mentionne pas Sarah. Il ne mentionne pas Rebecca. Qui est-ce qu'il mentionne? Bon, il parle de deux Cananéennes, Tamar et Rahab. Il parle d'une Moabite qui s'appelle Ruth. Il parle d'une femme qui était l'épouse d'un étranger hittite, hein, c'est-à-dire Bathsheba. Et nous ne savons pas si Bathsheba était israélite ou si elle était étrangère. Mais ce ne sont pas des gens qui ont des origines glorieuses ou qui ont des origines très juives. Même deux des histoires, c'est des adultères qui sont ici. Si deux des femmes se distinguent par leur foi, deux, c'est des histoires extrêmement sordides qui sont là. Bon, pourquoi est-ce que Matthieu a fait à cela? Pourquoi est-ce qu'il inclut ces femmes? Bon, de nouveau, je crois que ça montre Dieu à l'œuvre dans toutes les circonstances et dans toutes les vies. Mais il y a quelque chose de plus ici. C'est que le plan de Dieu qu'on discerne ici, c'est pas juste pour Israël. Et Matthieu fait un effort de nous montrer que dans le plan de Dieu, c'est pas juste les Israélites et le peuple élu, mais qu'il y a aussi des gens, des peuples rejetés qui font partie des générations qui ont précédé Jésus et font partie du plan de Dieu. Et Matthieu veut nous montrer que Jésus et sa venue, c'est pour le monde entier. C'est pour toutes les nations, comme nous verrons dans Matthieu chapitre 28. C'est pas juste pour Israël, mais c'est pour tout le monde. Et comme les Cananéens ont fait partie du plan de Dieu, bon, nous aussi, nous pouvons en faire partie. Le plan de Dieu en Jésus-Christ, c'est de bénir à travers la descendance d'Abraham toutes les familles de la terre. Et Matthieu a vraiment une attention particulière pour ces personnes qui étaient dans l'Ancien Testament mises à part, sauf exception. Même Matthieu appelle la femme syrophénicienne une cananéenne, et c'est le seul à faire cela. Bon, c'est très Ancien Testament, de nouveau. Mais il montre que Dieu a une place même pour les méchants cananéens, ceux qui étaient rejetés. Et donc, un plan de Dieu dans cette généalogie qui est pour tout le monde, pas juste Israël, mais pour le monde entier. Le plan de Dieu est universel et c'est l'ouverture du royaume de Dieu pour le monde. Aucune de ces personnes ne savait complètement ce que Dieu allait faire à travers leur vie et leurs enfants. Ils ne savaient pas comment Dieu était à l'œuvre, même si certains avaient une petite idée. Abraham avait des promesses, David avait des promesses. Mais même s'ils n'étaient pas conscients, Dieu était à l'œuvre dans leur vie. Et nous avons la confiance qu'à travers Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, à travers le Saint-Esprit, que Dieu est à l'œuvre dans ce monde et dans nos vies. L'appel pour nous, c'est d'être des participants volontaires et joyeux dans l'œuvre de Dieu, afin que son plan de rédemption pour le monde puisse être effectué par notre témoignage et par notre vie. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que j'anticipe la suite de notre lecture de Matthieu.